VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. La lutte contre Boko Haram, l'ONU s'est inquiétée aujourd'hui du retour des réfugiés depuis le Cameroun vers le nord-est du Nigeria et particulièrement à Bangui, région dévastée par l'insurrection du groupe djihadiste et où l'accès des services essentiels est limité. Le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans une déclaration écrite, estime que la région est mal préparée pour les recevoir. L'armée nigériane a repris la ville de Bangui en septembre 2015 après des combats acharnés avec des militants djihadistes nigériens de Boko Haram, dont l'insurrection a fait au moins 20 000 morts depuis 2009. Le Cameroun n'abrite pas seulement les réfugiés nigériens fuyant les exactions de Boko Haram qui s'installent dans le nord du pays. Il y a aussi les réfugiés centrafricains. Les autorités camerounaises font d'ailleurs face à une crise d'infrastructures de base dans 16 communes où on trouve leur camp de réfugiés. Et la présence des centrafricains met à rude épreuve les services dans les trois régions concernées. Pour parer à cette crise, le HCR et le gouvernement camerounais ont mis sur pied un plan de soutien aux communes en question. De Yaoundé, le reportage de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
L'afflux de réfugiés centrafricains a augmenté la demande en infrastructures de base. C'est le cas spécifique de la localité de Menganga, dans l'Adamawa. Aboubakar Kombo, maire de la dite commune.
La commune de Menga a très très vite fait d'accueillir 6000 réfugiés dans un camp installé en Gam. Mais de là, de temps en temps, ils sont obligés de sortir, qui pour des raisons diverses, et c'est là toujours des conflits agro-pastoraux, par exemple, pour ceux qui se sont déplacés avec leurs troupeaux. La population, déjà estimée à 21 000, est passée du simple au triple pratiquement. En tenant ça, elle a des besoins sur le plan alimentaire, de la sécurité même.
À Kado Badjeri, à l'est du Cameroun, plus proche de la République centrafricaine, la pression sur les infrastructures sanitaires s'est vite fait ressentir ici. Et c'est loin d'être la seule préoccupation engendrée par l'arrivée de plus de 23 000 réfugiés centrafricains dans cette petite commune, aujourd'hui peuplée de plus de 150 000 âmes. Esther Doué-Yofa, maire de Gado Badjeri.
Selon les statistiques de mes services d'état civil, nous avons la moyenne de 300 accouchements par mois, pendant que les locaux n'atteignent pas ce nombre. Vous voyez qu'ils ont besoin d'être éduqués. Nous n'avons pas assez d'infrastructures en eau et assainissement.
À Tumboro, dans le nord du Cameroun, 10 164 réfugiés centrafricains sont répartis sur 4 sites, dans une commune désormais affaiblie en termes d'offres en infrastructure. Hamadou Haman, deuxième adjoint au maire de la commune de Toboro.
Les infrastructures dans le domaine sanitaire sont devenues insuffisantes. Dans le domaine éducatif sont devenues insuffisantes. Dans le domaine hydraulique surtout, ça cause tellement de problèmes.
Les interventions précises dans les communes abritant les réfugiés centrafricains au Cameroun s'avèrent donc capitales. C'est la raison d'être du plan de soutien à cette commune, objet d'un accord entre le HCR et le gouvernement camerounais. Lazare Étienne Kouassi, représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Cameroun.
Il était temps peut-être de changer l'approche pour faire en sorte que les réfugiés, au moins pendant leur séjour ici au Cameroun, ils arrivent à un niveau de résilience, d'autonomisation. J'essaie donc de renforcer la capacité des réfugiés en même temps que celle des populations qu'ils accueillent pour le mieux vivre ensemble.
Sur plus de 260 000 réfugiés centrafricains recensés au Cameroun, près de 70% côtoient les populations hautes, augmentant ainsi la crise en infrastructure de base. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En RCA même, les affrontements de mardi à Bria dans le centre-est du pays ont fait une centaine de morts, selon un nouveau bilan diffusé ce mercredi par le maire de la ville, Maurice Bélikoussou, et l'abbé Gildas Gbenaï, le curé de Bria. Les combats entre miliciens anti-Balaka et éléments du FPRC, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, un des principaux groupes armés de l'ex-coalition musulmane CEDECA, ont eu lieu au lendemain de la signature à Rome d'un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat entre le groupe armé et le gouvernement centrafricain sous le parrainage de la communauté catholique San Egidio. Le FPRC est d'ailleurs un des signataires de cet accord. Et toujours concernant la RCA, les handicapés sont particulièrement vulnérables et en première ligne des violences en Centrafrique. C'est ce que dénonce l'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch dans un rapport publié ce mercredi qui préconise une meilleure prise en charge de ce groupe marginalisé. L'ONG basée à New York exhorte le gouvernement centrafricain et les divers organes des Nations Unies en RCA à une meilleure prise en charge des handicapés dans le pays. Elle exprime aussi l'espoir que l'accord de paix de Santé Didio, conclu et signé lundi à Rome par les autorités de Bangui et 13 groupes armés, offrira une occasion d'aider ce groupe particulièrement maltraité.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À New York, vote est prévu ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU sur un projet de résolution qui doit ouvrir la voie au déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Plus de détails avec Yacouba Ouédraogo.
Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso ont accepté de constituer une force de 5000 hommes pour combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes dans la région du Sahel. Un premier projet de résolution présenté par la France voulait que le Conseil de sécurité donne son feu vert. Les États-Unis étaient opposés, mais le nouveau projet salue le déploiement de la force du G5 Sahel pour amener la paix et la sécurité dans la région. La France a lancé en 2013 une intervention militaire pour chasser les djihadistes du nord malien. L'opération Barkhane se poursuit dans la bande sahélo-saharienne et sera renforcée si ce projet de résolution est adopté aujourd'hui.
Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka semble faire manche arrière sur son projet de révision de la Constitution. Le chef de l'État s'est dit prêt à retirer le projet. Une première après les différentes manifestations de protestation contre cette initiative. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, fait le point.
C'est lors de la présentation de la Charte pour la paix que le président Ibeka a donné son avis sur la révision constitutionnelle. Ibrahim Boubacar Keïta veut que la Constitution prenne en compte quelques aspects de l'accord issu du processus d'Alger.
Pour le confort de notre système démocratique et la conformité dans cet exercice de recherche de paix nous conduit aujourd'hui à l'exercice de révision constitutionnelle pour créer des conditions nouvelles, de vivre ensemble mieux, harmonieusement. Nul mandat à proroger ou à prolonger ou à multiplier par je ne sais combien, non pas pour faire un homme d'État plus fort, plus orgueilleux, plus vaniteux, sûrement pas.
La grogne de la rue, les contestations autour du référendum, plus l'insécurité dans le pays, poussent le président malien à revoir sa copie.
Il y a certaines choses qui peuvent, avec intelligence, et dès lors que l'ensemble en aurait convenu, être différé dans le temps, mais jamais empêché d'être. Ce serait remettre en cause l'essentiel, et nul n'a le droit de remettre en cause l'essentiel.
Avant de prendre une décision finale, le président Ibeka a rencontré les présidents des institutions, les leaders religieux. Il va aussi échanger avec la classe politique, toutes tendances confondues. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'ONU s'inquiète des réductions de financement prévues par les États-Unis dans leur contribution à son budget. Son secrétaire général, Antonio Guterres, compte venir demander personnellement au Congrès américain qu'il ne diminue pas les fonds alloués par Washington. Les détails avec Morgan Guiriec.
Monsieur Guterres prévoit de venir à Washington la semaine prochaine pour faire valoir son point de vue aux élus américains qui tiennent les cordons de la bourse et ont le pouvoir d'amender tout projet de finances du président Donald Trump. Au siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres a déclaré que le projet de budget présenté au Congrès créerait un problème insoluble pour la gestion des Nations Unies. Le département d'État a proposé de réduire de plus de 30% les budgets consacrés à la diplomatie et à l'aide internationale, y compris une baisse de 60% des fonds destinés aux opérations de maintien de la paix. Les États-Unis sont le plus gros contributeur des Nations Unies, avec plus de 5 milliards de dollars, c'est-à-dire 22% du budget de base, et près de 8 milliards de dollars qui représentent plus de 28% du budget des opérations de maintien de la paix dans le monde.
Et pour terminer, politique américaine, victoire de la candidate républicaine Karen Handel mardi face à son concurrent démocrate John Ossoff dans un scrutin législatif partiel en Géorgie. Élection largement considérée comme une sorte de référendum sur la présidence de Donald Trump. Au terme de la campagne électorale pour ce siège à la Chambre des représentants du Congrès, la campagne la plus chère de l'histoire des États-Unis, Mme Handel a obtenu 52% des voix dans la circonscription électorale des faubourgs d'Atlanta. Qui était en jeu, un district contrôlé par les républicains depuis les années 1970. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.